et qui se donne totalement. Il se livre dans la plus grande fragilité, dans la plus grande faiblesse. Il se livre à travers le cœur blessé de l'agneau. Et c'est à travers le cœur blessé de l'agneau que nous comprenons comment l'amour divin se communique pleinement et totalement. Qu'il se communique jusqu'au bout. Voilà l'objet de la charité, au point de vue chrétien, vous voyez. Au point de vue d'une théologie mystique. Dans une théologie mystique, nous devons comprendre, puisque le symbolisme est présent dans la théologie mystique, saint Thomas ne parle pas du cœur blessé de l'agneau dans son traité de la charité. Une lacune terrible, vous allez me dire. Non, ce n'est pas une lacune parce qu'il est en théologie scientifique. Mais je vous ai déjà dit, on ne peut pas rester au niveau de la théologie scientifique. La théologie scientifique, c'est merveilleux, il faut le faire, c'est un exercice, c'est une purification. Mais nous devons tout de suite aller en théologie mystique, et en théologie mystique, le symbolisme fait partie de notre vie, parce que c'est un symbolisme divin. Et c'est à travers la blessure du cœur de l'agneau que nous comprenons divinement comment Dieu se livre à nous, comment Dieu se donne à nous. Et de fait, c'est à travers la blessure du cœur de l'agneau que nous comprenons l'objet propre de la charité. Parce que l'ami n'est jamais autant ami qu'au moment où il se livre, où il se donne. Il se donne dans le silence, pour que le don soit plus parfait et que ce soit un don personnel. Il se donne jusqu'au bout, sans rien garder pour lui, en nous donnant le trésor de son cœur. Il donne Marie. Oui, Marie est la blessure du cœur. C'est ce que saint Jean a très bien compris, ça. Marie est la blessure du cœur, les deux. Et je crois que ce sont les deux pôles que nous devons toujours comprendre. Marie et la blessure du cœur qui nous font comprendre les deux aspects extrêmes de l'amour. La blessure du cœur montre la vulnérabilité la plus grande et qu'il se donne dans cette vulnérabilité. Et le don de Marie, c'est l'aspect extatique. Quand on est en extase d'amour, pas charismatique, hein. Quand on est en extase d'amour, on est entièrement donné. Et donc, le trésor de notre cœur est livré. Le trésor du cœur de Jésus, c'est Marie. Et la passivité la plus grande, c'est le coup de lance. Vous voyez, toujours les deux extrêmes de l'amour. Hein. L'amour est extatique, et l'amour est dans la plus grande réceptivité, la plus grande passivité. Alors, pour comprendre l'objet propre de la charité, c'est de comprendre comment Dieu qui est amour va se manifester à nous à travers le cœur de son Fils bien-aimé, en qui il a mis toutes ses complaisances. Heureusement qu'il y a cette parole. Il a mis toutes ses complaisances. Donc, quand Jésus se donne à nous, c'est vraiment le Dieu amour, c'est tout l'amour du Père pour nous qui prend ce double aspect, le don de Marie et la blessure du cœur. Voilà l'objet de la charité au niveau proprement mystique. Puis nous avons ces actes, là c'est le tome 2, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'acte intérieur de la charité, la dilection. L'amour réclame l'amour. Vous voyez, toujours là encore, les deux analogies de la vertu et de l'amitié. Quand l'ami se donne, il réclame le don de l'ami. Et l'ami ne peut se donner qu'à travers le don de l'ami. L'ami ne peut pas se donner autrement. Il se donne toujours à travers le don de l'ami. Et c'est pour ça qu'il faut nécessairement la dilection. Le propre de l'amour, c'est d'aimer. Et le propre de la charité, c'est d'aimer. Et il faut exercer la charité dans cet amour. Seigneur, je vous aime. Alors, le dire intérieurement. Et le dire intérieurement, c'est comme Jésus se livre, nous livrer. Comme Jésus donne son trésor, nous lui donner notre trésor. Tant que nous n'avons pas donné notre trésor à Jésus, nous n'avons encore rien donné. Tant que nous ne sommes pas livrés à la manière dont Jésus se livre à travers la blessure de son cœur, nous ne sommes pas livrés. Donc il faut bien comprendre qu'en réponse à ces deux aspects de l'amour de Dieu, il y a pour nous aussi ces deux aspects. Et c'est ce qui fait comprendre comment la charité est à la fois une suprême passivité et une suprême activité. Vous vous souvenez, c'était ce qu'on avait vu à propos de l'acte de charité. Est-ce qu'il est plus parfait d'être dans un état de passivité ou est-ce qu'il est plus parfait d'être dans un état d'activité ? Bien, il faut faire attention, les deux sont exigés dans la charité. Vous devez être dans une suprême passivité et une suprême activité. Parce que la charité est à la fois amitié et vertu. Alors vous retrouvez la même chose au point de vue de l'acte. Vous ne pouvez pas comprendre, humainement parlant, qu'est-ce que c'est que l'acte de charité. Ça vous dépasse complètement. C'est au-delà de toute votre psychologie. Si vous ramenez l'acte de charité à votre psychologie, vous n'y comprenez rien puisque vous le ramenez à votre conditionnement. Or, la charité vous met dans cet état extatique de rencontre avec Jésus qui se donne, avec le Père qui se donne. Vous le recevez et vous vous donnez. Vous vous donnez et vous le recevez. Parce que pour recevoir l'ami, il faut être totalement donné. Si on n'est pas donné, on ne reçoit pas l'ami. Si on n'est pas totalement donné à Jésus, on ne peut pas le recevoir. Et c'est en le recevant qu'on est capable de se donner. Oui, alors les deux se tiennent. C'est merveilleux du reste de voir ça. Et c'est vrai, c'est l'action constante de l'Esprit-Saint en nous qui nous apprend ces deux aspects constants, à la fois de réceptivité suprême et de don pour se livrer totalement. Une fois qu'on a compris ça, on voit tout de suite l'effet. Alors c'est très important, hein, ici au point de vue théologique, de comprendre que la joie est un effet. Donc ne cherchez pas la joie, vous ne la trouverez jamais. Ne cherchez pas le silence, vous ne le trouverez jamais. Aimez et vous aurez la joie. Aimez et vous aurez le silence. On ne cherche pas les effets. Chercher les effets pour les effets, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, c'est là où la théologie purifie. Parce qu'au point de vue spirituel, on dira, mais je ne suis pas dans la joie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas dans la joie. Mais attendez, qu'est-ce que vous entendez ? La joie psychologique ? Parce qu'il y a une joie psychologique, hein. L'épanouissement. Ah, il est épanoui, c'est extraordinaire. Le petit, depuis qu'il est entré à Bethléem, il est épanoui. On le retrouve. Ah, c'est merveilleux, ça. Bethléem épanoui. Oui, 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 pendant 6 mois. Et puis alors après... Et après, ah, ça va plus. Il n'est pas épanoui demain. Ah, ça ne va plus, donc ça ne va plus du tout. Oui, alors, on juge d'après la joie psychologique. La joie psychologique, c'est l'épanouissement. C'est la spiritualité des arbres à vent. Et alors, une fois qu'il y a la taille du Père, à la taille du Père, ça fait pleurer. Un arbre, il pleure, hein, quand on le taille. C'est évident. Dès qu'on taille, on pleure. Et c'est à partir de ce moment-là que la joie intérieure, celle qui dépasse absolument toute joie psychologique, celle qui n'est plus atteignable par le point de vue psychologique, c'est ça l'effet de la charité. C'est un effet qui provient de l'acte même de charité. C'est un effet intérieur. Vous voyez, saint Thomas souligne un effet intérieur. Donc il ne se manifeste pas nécessairement dans votre sensibilité. Vous pouvez être en même temps meurtri et joyeux. Mais gens qui pleurent et gens qui rient. Tu vois, c'est tout à fait le point de vue que nous souligne saint Thomas. Si c'était illustré, on mettrait gens qui pleurent et gens qui rient. Alors vous avez un œil qui pleure, et puis l'autre, ah ça c'est le plus visible, hein, et puis un œil qui est dans la joie. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est que la joie est intérieure. La joie provient de l'acte de charité, de l'acte principal. Et c'est quelque chose de tout intérieur. Mais c'est un effet. Donc, ne cherchez pas la joie. Cherchez à aimer. Et quand on cherche à aimer, la joie nous est donnée. Il y a la paix. La paix est plus sensible que la joie. La paix envahit notre âme. Alors, ce n'est pas du tout la paix à la manière des stoïciens. C'est-à-dire ce fait qu'on domine tout. La paix stoïcienne, c'est que la volonté domine tout. Alors, les enfants terribles sont bien sages. Et les enfants terribles, c'est les passions, vous comprenez bien. Alors, les enfants terribles sont bien sages. Il y a une manière, hein, vous savez, quand on est surveillant, il y a une manière de faire que la classe soit paisible. On domine tellement que personne ne bouge le petit doigt. Alors, c'est paisible. Tout le monde est terrorisé. C'est très paisible, ils sont sages. Il y a une paix prodigieuse, tout le monde est terrorisé. Alors, c'est pas du tout cette paix-là. C'est pas une paix stoïcienne. C'est une paix divine qui provient de l'amour. Et qui fait qu'il y a une liberté intérieure. Une liberté intérieure qui se réalise profondément. Qui fait que ça ne se sent pas toujours psychologiquement. Il peut y avoir psychologiquement encore des tempêtes, du concupiscible et l'irascible. Ça n'a rien à voir avec la paix divine. C'est très très curieux ça. Tandis que si c'était une paix stoïcienne, on dirait, vous voyez, c'est pas parfait. Voyez bien, votre concupiscible n'est pas encore complètement dominé. Votre irascible n'est pas encore complètement dominé. Vous devriez être complètement mort à tout ce que représentent les biens sensibles, à tout ce que représentent les petites irritations de votre irascible. Vous devriez être complètement mort vis-à-vis de ça. Voilà ce que le stoïcien dirait. Or, pas du tout. Plus on mène sa vie contemplative, plus la charité s'empare de nous et est contemplative, plus nous devenons sensibles, juste un verset stoïcien, plus nous devenons sensibles, plus nous sentons les moindres petites vibrations du concupiscible et l'irascible. C'est extraordinaire, c'est affolant. Avant, on ne les sentait pas. Et au bout de quelques années de vie religieuse, on commence à les sentir. Et alors, il n'y a aucun progrès. Aucun progrès. Pas du tout, vous devenez plus sensible. Vous voyez, c'est là où la parole d'Aristote est tellement forte. L'insensibilité est un vice. Et l'Esprit Saint, c'est très bien. C'est beau de voir que quelqu'un comme Aristote, qui n'est pas directement un saint, le dit. Que l'insensibilité, ça c'est, et c'est l'insensibilité, c'est ce que les stoïciens aboutissent à l'insensibilité. Ils veulent aboutir à l'insensibilité. Parimoniale. C'était stoïcien au carré. Parce que quand le stoïcisme s'introduit dans la vie religieuse, vous savez, hein, c'est effrayant. Il y a deux écrous à la place d'un. Et on visse, on visse, on visse, on visse. Et plus on en visse un, plus on faut visser l'autre. Et alors c'est extraordinaire. Concupiscible et irascible, c'est visser, visser, visser. Parce que bon, ça éclate. Hein, ça... Mais c'est... Alors l'insensibilité, on aboutit à l'insensibilité. Non, pas du tout. La paix divine, la paix de la charité, c'est une paix intérieure. Au plus intime de l'âme, c'est une paix qui vient de Dieu. C'est qu'on n'a qu'un seul désir, c'est d'accomplir la volonté du Père. C'est ça que donne la charité. Un seul désir, l'accomplissement. Jésus meurt dans l'obéissance. C'est ça la paix. C'est Jésus qui meurt dans l'obéissance. Nous mourons à nous-mêmes dans l'obéissance. Et parce que nous mourons à nous-mêmes dans l'obéissance, les stoïciens ne meurent pas dans l'obéissance. Ils meurent par leur volonté propre. Tandis qu'au contraire, nous mourons dans l'obéissance. Et parce qu'on meurt dans l'obéissance, alors à ce moment-là, il n'y a plus cette espèce de volonté de puissance, cette volonté de domination. Et par le fait même, le concupiscible et l'irascible demeurent. Ils se sont jamais si bien portés. C'est extraordinaire. La charité fait que le concupiscible et l'irascible reprennent ce qu'ils ont d'authentique. Le concupiscible et l'irascible, ça vient de Dieu quand même. Dieu a voulu qu'on ait du concupiscible et Dieu a voulu qu'on ait de l'irascible. C'est invraisemblable de la part de Dieu. Le péché a contaminé notre irascible. Le péché a contaminé notre concupiscible, c'est bien évident. Et la paix intérieure, la paix qui vient de l'Esprit Saint, cette paix de charité va enlever progressivement cette gangue qui vient des conséquences du péché. pour permettre aux concupiscibles et à l'irascible de revenir à leur état naturel, au service de l'amour, au service de cette paix intérieure. Ça se fait lentement, mais ça se fait progressivement. Et alors on demeure sensible, mais on ne s'arrête pas au sensible. Vous voyez, on ne s'y arrête pas. Les stoïciens s'y arrêtent beaucoup trop. Ils regardent les effets, ils sont des positivistes. Ils s'intéressent aux effets. Dieu ne s'intéresse pas tellement aux effets, c'est second. Ce qui s'intéresse, c'est à ce désir et cette soif d'accomplir pleinement la volonté du Père. Et ce désir de paix intérieure. Et à côté de la paix, il y a la miséricorde. Si on est paisible, on peut devenir source d'amour. Et on devient source d'amour pour les autres par la miséricorde. Oui, et c'est par là qu'on voit bien ces trois effets, joie, paix, miséricorde. Ça se tient. Ce sont des effets intérieurs. Hein. La miséricorde, c'est quelque chose d'intérieur. C'est le regard vis-à-vis des autres. La joie et la paix, je dirais, la joie, elle regarde l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La paix, elle regarde avant tout l'amour de Dieu. Et la miséricorde, l'amour du prochain. Vous voyez, il y a les trois se tiennent. La joie regarde les deux, parce que la joie, elle se traduit à travers l'amour à l'égard de Dieu et l'amour du prochain. La paix, c'est à l'égard de l'amour de Dieu. Et la miséricorde, c'est à l'égard du prochain. À l'égard du prochain, on a toujours un regard de miséricorde, c'est-à-dire on a un regard de tendresse. La miséricorde implique ce point de vue de la tendresse. On n'est pas juge. On regarde avant tout ce qu'il y a de bon dans le prochain. Et quand on voit une blessure, on l'enveloppe tout de suite de son amour et de sa miséricorde. On ne veut pas mettre à nu les misères de ses frères. On ne veut pas en profiter. Quand on profite de la misère de quelqu'un, mais c'est justement, c'est contraire à la miséricorde. Ça prouve qu'on n'a pas encore assez d'amour. Alors on étale une petite blessure, un petit bobo, on l'étale. On dit, ah, il n'y a que ça. Pas du tout. Vous ne voyez pas. C'est le fruit, cette blessure. Ça provient d'une grande lutte. Ça provient de, tout simplement d'une précarité, d'une faiblesse. Mais derrière, vous voyez le regard de Dieu. Dieu nous enveloppe de sa miséricorde. Et le regard de Dieu sur nous, c'est un regard de père qui est comme une mère et qui est un regard de miséricorde. Vous voyez, la miséricorde nous fait comprendre comment, par la charité, nous épousons le regard de Dieu sur les hommes. Et nous avons le regard même du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et donc, dans la miséricorde, et dans la miséricorde de la croix, Jésus a pris sur lui toutes les misères du monde. Et donc, il ne les regarde plus puisqu'il les a pris sur lui. Ces misères du monde n'existent plus. Il n'existe plus que l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, qui est fragile, puisqu'elle a été blessée, alors elle est fragile. Elle a été abîmée et on l'enveloppe de la miséricorde pour permettre d'aller plus loin. Donc on se sert de toutes les conséquences du péché, de toutes les fragilités pour communiquer un plus grand amour. Ensuite, saint Thomas regarde les effets extérieurs. Et les effets extérieurs, vous voyez bien, c'est la bienfaisance. Avec la bienfaisance, l'aumône et la correction fraternelle. Ça, c'est les effets extérieurs. Il faut que la charité, que la miséricorde se manifeste à travers nos activités extérieures, puisque c'est le mystère d'incarnation. Une miséricorde qui ne se manifesterait jamais d'une façon sensible et tangible ne serait pas une véritable miséricorde divine. Ce que saint Jean dit admirablement dans sa première épître. Il ne faut pas simplement aimer de parole, mais aimer vraiment d'une façon efficace. Alors, aimer d'une façon efficace, c'est que la miséricorde se traduit dans la bienfaisance. On aide. Oui, c'est le service à l'égard du prochain. C'est le mystère de la visitation. On se met en toute hâte au service de la vieille cousine Elisabeth. C'est l'aumône. L'aumône, vous ne pouvez pas donner grand-chose, vous. C'est l'aumône de votre temps. Mais ça peut arriver, ça, dans le service. La bienfaisance, l'aumône. Alors, à la place de donner de l'argent, on donne son temps, ce qui est beaucoup mieux. On donne son temps à quelqu'un qui a besoin de nous. On donne son temps sans compter. On donne son temps. C'est notre seule richesse. C'est votre seule richesse, parce qu'on ne vous demande pas d'avoir des sous dans votre poche. Alors, mais vous avez votre temps. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Et alors, c'est le service à la miséricorde qui donne son temps. Ça, c'est l'aumône. C'est l'aumône. On ne va pas voir l'aumône, hein, mais comprenez, je vais en voir tout de suite la correction fraternelle, parce que c'est, je crois, l'aspect le plus tangible pour nous. Mais il ne faut pas oublier, hein, que l'aumône pour nous se traduit de cette manière. Vous n'êtes vraiment miséricordieuse, vous êtes vraiment miséricordieux et miséricordieuse que lorsque, de fait, vous avez donné tout votre temps au prochain. C'est votre manière d'être entièrement à son service. Alors, évidemment, il y a un ordo caritatis, hein, vous comprenez bien. Le temps, on n'a pas à le donner indifféremment, on doit le donner comme Dieu veut lui-même qu'on le donne. Mais on doit le donner entièrement, ça ne nous appartient plus. Le temps ne nous appartient plus. La charité va jusque-là, hein, c'est beau. La charité fait que nous n'avons plus aucun droit sur le temps. Et nous sommes entièrement livrés. Alors, nous le brûlons pour l'oraison, nous le brûlons pour la prière liturgique, nous le brûlons pour l'exercice de l'aumône, de la charité fraternelle. Et voyons maintenant le dernier effet, donc, de la charité, la correction fraternelle. Puisque nous sommes dans la petite synthèse, voyons ce que saint Thomas dit dans le troisième tome que nous ne verrons pas. Nous aborderons maintenant l'étude des vices opposés à la charité, puisque pour vous, ça ne vous intéresse pas directement, n'est-ce pas? Les vices opposés à la charité, ça n'existe pas. Alors, c'est pas la peine de le voir. En premier lieu, l'étude de la haine, qui s'oppose à la charité elle-même. Puis l'étude de l'assédie et de l'envie. Ça, l'assédie peut-être, hein, et qui s'oppose à la joie de la charité. L'assédie et l'envie. L'assédie, c'est nous, l'envie, c'est par rapport aux autres. Vous voyez, quand on est un petit peu triste, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, alors on se met à loucher. Et on voit que dans le clapier du voisin, il y a beaucoup d'herbe, alors que nous, il n'y a plus rien du tout. C'est extraordinaire, on se met à loucher. Et alors, on se met à loucher de cette manière particulière qui fait que c'est l'envie. Mais, alors, on est envieux et on essaie par tous les moyens de prendre l'herbe du voisin. Non, c'est ça, c'est... qui s'oppose à la joie de la charité. Ensuite, la discorde et le schisme qui s'opposent à la paix. La discorde et le schisme qui s'opposent à la paix. Enfin, de l'offense et du scandale qui s'opposent à la bienfaisance et à la correction fraternelle. C'est très curieux, ça. C'est intéressant à voir ça. Vous voyez, de voir, c'est tout ce qui vient s'opposer. Mais la bienfaisance, l'offense et le scandale. Et alors, ensuite, saint Thomas termine tout son traité sur la charité, sur le précepte de charité. Les préceptes de la charité. Il faut maintenant étudier les préceptes. Vous voyez, saint Thomas ne commence pas par les préceptes. Ce n'est pas une morale kantienne. Il a regardé que la charité doit s'exercer pour elle-même. Ensuite, il regarde le garde-fou. Le garde-fou, on en a besoin. On en a toujours besoin. Alors, il y a un précepte. Il y a un précepte de charité. et puis le dépassement du précepte, le don de sagesse. Quand vous êtes sous l'air, sous le souffle du grand aigle, vous n'avez plus besoin du précepte. Mais quand vous devez ramer, vous avez besoin du précepte. Mais le précepte vient en dernier lieu, c'est très très joli ça. Et c'est intéressant de voir ça. Et le précepte de charité, parce que Dieu nous a donné un précepte de charité. Alors voyons la correction fraternelle. Et autrement dit, dans la somme théologique de saint Thomas, la charité prend une place royale. Comparativement à la foi, comparativement à l'espérance, et comparativement à toutes les autres vertus. Parce que la charité est la mère de toutes les autres vertus. Puisqu'elle va informer toutes les autres vertus. Elle va les envelopper toutes. Et les transformer toutes. Et donc, on comprend comment le théologien regarde la charité comme ce qui est capital dans notre vie. Toute notre vie chrétienne et toute notre vie contemplative n'a pas d'autre but que de permettre à la charité de se développer divinement. Et pour se développer divinement, l'exercice principal de la charité, c'est la contemplation. Aimer Dieu pour lui-même. Et l'aimer pleinement pour lui-même. Et être heureux qu'il soit Dieu, c'est la grande joie. Et être paisible parce qu'il est Dieu. Alors à ce moment-là, tout le reste disparaît. Vous voyez, vivre déjà ce que l'Apocalypse montre, le premier ciel et la première terre disparaissent. Et un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et ça, c'est le mystère de la charité. Si on vivait de la charité, on vivrait déjà de ce nouveau ciel, de cette nouvelle terre. Et la première, le premier ciel et la première terre seraient roulés. La charité enveloppe tout et transforme tout. Ça, c'est capital de comprendre ça. C'est ça l'importance de ce traité de la charité. C'est de saisir que vraiment la charité, c'est source d'une vie nouvelle. Et notre vie nouvelle, c'est notre vie d'enfant de Dieu et c'est une vie d'amour. On doit vivre de cet amour divin. On ne le ressent pas, puisque ici on vit notre vie divine sous ce mode de chrysalide, sous ce mode embryonnaire. On est dans le sein de l'Église, on est dans le sein de Marie, et on est tous des petits embryons. Alors, évidemment, il y a des moments où on ne sent pas très bien si on vit ou si on ne vit pas. Et on discute si l'embryon est une personne humaine ou pas une personne humaine. Vous voyez les discussions du démon. Ces petits moines sont des petits embryons. Le démon vous regarde comme ça, vous savez. Il vous regarde comme des petits embryons. Pouf. Le contemplatif, la blague. Le contemplatif, c'est la blague. Regardez comme ils se tiennent. Mais c'est tout à fait... C'est pas du tout une personne divine, mais non, c'est rien du tout. C'était une personne divine, le démon aurait peur. Mais comme il traite des petits embryons. C'est très important, vous voyez, de voir ce qui se passe aujourd'hui. Hein, parce que ça nous éclaire sur le démon, par rapport à la vie contemplative. Quand on vit une vie contemplative, on est des petits embryons. Fragiles, faibles, on le sait très bien. Incapable de se défendre, comment voulez-vous? On est dans le sein maternel. Et on vit du rythme du sein maternel, de la vie de Marie. Parce que dans l'Église, hein, les contemplatifs, ils ont une place royale. Alors dans l'Église, ils sont dans le sein de Marie. Et c'est vrai. Et vivent là. Pas de contemplation en dehors. En dehors, il fait trop froid. Je sais bien qu'il y a des couveuses électriques, mais ça c'est pour... C'est... Il ne dit rien. Il y a des couveuses électriques, c'est évident, il y a des couveuses électriques. Mais les couveuses électriques, c'est pas le sein de la très sainte Vierge. C'est quelque chose de très particulier. Vous voyez ce que ça signifie, hein, spirituellement, je ne le dis pas. Mais vous n'avez qu'à le découvrir vous-même. La différence du sein maternel de Marie, où les petits-enfants vivent leur vie contemplative de cette manière. Mais ils sont fragiles. Ils sont très fragiles. Je sais bien que la femme file au désert parce qu'elle veut garder ses petits-enfants. Alors quand elle est au désert, elle est là, un lieu que Dieu lui a réservé. C'est merveilleux pour la vie contemplative, mais on la poursuit. On la poursuit. Et la terre vient au service de la femme. Donc l'humilité, la petitesse, vient au service de la femme pour qu'elle garde ce trésor de la vie contemplative. Et ce trésor de la vie contemplative doit vivre là. Mais évidemment, on voit très bien que le démon ne peut pas supporter cette petitesse de la vie contemplative. C'est irritant. Pour lui, la vie contemplative, ce n'est qu'une splendeur de l'intelligence. C'est la caricature de la vie contemplative. Alors c'est la splendeur de l'intelligence. Et c'est la puissance. Pour lui, il ne comprend que ça. Et c'est pour ça qu'il veut toujours faire dévier la vie contemplative vers le point de vue de la splendeur de l'intelligence et la puissance. Et regardez dans l'histoire de l'Église, c'est toujours ce qui est arrivé. La vie contemplative s'est déviée. Alors, le renouveau de la vie contemplative, Bethléem, le renouveau de la vie contemplative dans l'Église, dans le cœur de Marie, au plus intime du cœur de Marie, dans le cœur de Saint Bruno, c'est vivre justement cette petitesse évangélique dans toute sa pureté, dans toute sa force, état embryonnaire de la vie contemplative. C'est la gloire de Marie de faire que ces tout petits soient dans cet état embryonnaire et dans cet état de petitesse pour sauver ce qu'il y a de plus grand dans le mystère de la rédemption. C'est l'amour. Il y a un amour caché, un amour tout à fait divin qui s'épanouit dans la contemplation. Nous avons à traiter maintenant de la correction fraternelle. Alors, les petits embryons qui se corrigent mutuellement. C'est merveilleux de voir ça, non ? Et alors, ça donne une modalité particulière. Tu vois ? La correction fraternelle ne se fait pas de la même manière dans la vie monastique et dans l'action catholique. Pas du tout de la même façon. La correction fraternelle ne se fait pas de la même manière en famille humaine et en famille divine. Alors saint Thomas va traiter tout simplement qu'est-ce que c'est que la correction fraternelle. Et les modalités et le comment, c'est nous qui devons le comprendre. Hein, pour comprendre la modalité particulière de la correction fraternelle. Parce que c'est assez difficile. Hein. Le démon ne fait pas de correction fraternelle. La grimace de la correction fraternelle. Et la grimace de la correction fraternelle, c'est le démon qui perpétuellement voit « Toi, contemplatif, dans le sein maternel, toi, plein de péchés, plein de faiblesses, plein d'ignorance, impossible. » C'est ça que fait le démon. Ça, c'est la grimace de la correction fraternelle. La correction fraternelle, elle est faite dans l'amour et pour l'amour. Elle est faite dans la miséricorde et pour la miséricorde. Et donc, la correction fraternelle, c'est toujours quelque chose qui nous redonne un élan nouveau d'espérance. Tandis que la grimace de la correction fraternelle, c'est de nous abattre. C'est de nous enlever toute espèce de force et d'élan. Alors ça, c'est le démon. C'est le démon qui est à l'œuvre. Parce qu'il est la grimace du mystère de la charité. Hein, faut pas l'oublier. Alors, est-elle un acte de charité ? Première question. Est-elle d'obligation ? Pour tous ou seulement pour les supérieurs ? Y a-t-il des gens qui sont particulièrement députés pour la correction fraternelle ? Faut pas qu'on... Vous voyez la différence entre l'exercice de l'autorité et l'exercice de l'amour, hein ? On va voir ça, là. Les inférieurs sont-ils obligés de corriger leurs supérieurs ? Hein ? Grave question. La correction fraternelle va-t-elle dans les deux sens ? Un pécheur a-t-il le droit de correction ? Faut-il corriger celui qui en deviendra pire ? Une correction secrète doit-elle précéder la dénonciation ? La production de témoins le doit-elle ? Ça va très loin, cette question de la correction fraternelle. Oui, c'est très intéressant, ça. C'est très difficile. Alors, la correction fraternelle est-elle un acte de charité ? Première objection, il semble que ce soit plutôt un acte de justice. L'opposition entre charité et justice. Hein. En effet, sur ces paroles, si ton frère a péché contre toi, la glose dit que la correction qu'il faut lui faire doit être inspirée par le zèle de la justice. Et on comprend très bien. Correction fraternelle au niveau de la justice. Au niveau de la justice, oui, très très bien, corrigeons son frère. Mais est-ce que vraiment, au point de vue de la charité, la charité supporte tout ? Hein ? C'est dit, la charité supporte tout. Or, quand vous commencez à dire, ah non, non, il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais vraiment, tu n'es pas tout à fait dedans. Hein. Chaque fois que tu passes, ça grince. Hein. Chaque fois que tu passes, les planches gémissent. Alors, parce que c'est ça, correction fraternelle. Bah, tu es encore un hippopotame. Tu manques un peu d'élan dans ta vie. Tu es lourd, lourd, lourd. Hein, et ça sent. Alors, donc, on ne supporte pas tout. Si on supportait tout, on n'entendrait pas les planches grincer quand quelqu'un passe. Ou quand quelqu'un ferme sa porte un peu lourdement. Ou quand quelqu'un, je ne sais pas, quoi, arrive toujours en retard. Mais non, on supporte tout. Alors, est-ce que la charité fraternelle qui supporte tout va-t-elle corriger ses frères ? Alors, le 7 contrat. Reprendre un délinquant, c'est lui faire une espèce d'aumône spirituelle. C'est donc, comme celle-ci, un acte de charité. C'est une drôle d'aumône, hein ? D'habitude, quand vous faites l'aumône, hein, vous donnez de votre avoir pour revêtir le pauvre qui n'a pas de vêtements. Dans la correction fraternelle, vous donnez votre amour pour voiler une déficience. Alors on va voir, la correction est un certain remède. C'est un certain remède que l'on doit employer contre le péché du prochain. Vous avez tous une petite pharmacie intérieure, voyez ? Parce qu'il s'agit de remèdes, il s'agit donc de petite pharmacie intérieure. Hein ? Nous avons tous une petite pharmacie intérieure par la charité et dans la charité. Alors on doit bien l'employer. Quand vous voyez un lépreux qui passe et que vous avez le remède capable de le guérir, avez-vous le droit de le laisser passer sans l'aider ? Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer, est-ce que vous avez le droit de laisser en disant « ça me dégarde » alors que vous avez la possibilité de l'aider ? Quand vous voyez votre frère passer et qu'il claudique, est-ce que vous avez le droit de laisser claudiquer ? Moi, ça m'est égal, je marche droit, c'est l'essentiel. La correction fraternelle est un certain remède que l'on doit employer contre le péché du prochain. Or, on peut considérer dans le péché le préjudice qu'il cause à celui qui le commet, à ceux qui lèsent ou scandalisent, et même au bien public dont le bon ordre peut être troublé. La correction du coupable est donc double. La première remédie au péché en tant qu'il est un mal pour le pécheur. Et c'est précisément la correction fraternelle qui a pour but de le rendre meilleur. Or, enlever un mal à quelqu'un est un acte de même nature que lui procurer un bien. Et ce dernier est un acte de charité qui nous pousse à vouloir et à faire du bien à ce que nous aimons. C'en est donc un aussi de corriger son frère, c'est-à-dire lui enlever son mal, son péché, qui est autant supérieur à la guérison d'une maladie ou à la réparation d'un dommage, que la vertu elle-même a plus d'affinité avec la charité que la santé ou la richesse. Ainsi donc, la correction fraternelle est un acte plus charitable que le soin des malades ou le soulagement des pauvres. Le soulagement du lépreux. La seconde correction remédie au péché en tant qu'il est contraire au bien du prochain ou au bien public, au bien commun. Elle est un acte de la justice qui a pour objet de maintenir la relation équitable entre les hommes. Vous voyez qu'il y a deux aspects de la correction. Une correction qui relève de l'amour et une correction qui relève de la justice. C'est très beau ça, hein, comme manière de répondre à la première objection. Corriger, c'est un acte de justice. C'est rétablir l'ordre. Corriger, c'est enlever un mal et c'est faire du bien. Voilà ce que dit saint Thomas. C'est exactement ça. Corriger, c'est enlever un mal et donc faire du bien. Si vous enlevez un mal, vous faites du bien. Vous mettez du baume, le bon samaritain, sur les blessures. Corriger, c'est aussi rétablir un ordre. Quand vous dites à quelqu'un, mais ne marchez pas si lourdement parce que tout le monde vous entend. Donc vous lésez le silence du bien commun. Vous lésez un ordre. Alors, cette manière de corriger, c'est un acte de justice. Quand vous dites au contraire à quelqu'un, tu marches trop lourdement, tu oublies que tu as des ailes intérieures. Tu oublies que tu es porté par les anges. Tu oublies ça. C'est un acte de correction fraternelle. Mais le motif est différent. D'un côté, c'est la justice, de l'autre côté, c'est l'amour. Alors, ici, on va répondre maintenant aux objections. La première objection, c'est facile, on y a répondu, c'est tout le corps de l'article. Il s'agit ici de la seconde espèce de correction, qui est un acte de la justice. S'il s'agissait de la première, il faudrait prendre la justice comme une vertu générale, dans le sens où tout péché est une iniquité, donc en quelque sorte opposé à la justice. Donc saint Thomas répond que fondamentalement, tout péché est une injustice. Donc fondamentalement, tout acte bon est en opposition vis-à-vis de l'injustice et donc corrige et dans le sens de la justice. Donc ça c'est facile à comprendre. Seconde objection, je vois tout de suite l'objection. Ne serait-elle pas un acte de prudence? Donc vous voyez, on veut éviter. La correction, c'est un acte de justice, c'est très simple. La correction, c'est un acte de prudence. Ne serait-elle pas un acte de prudence? Celle-ci est une bonne conseillère. Et précisément, la correction fraternelle se fait par une secrète abomination, donc une secrète admonestation. Donc c'est question du conseil, c'est-à-dire un bon conseil. Je te donne un bon conseil, ne marche pas si lourdement. Je prends ça exprès parce que c'est là où ça se manifeste le mieux. Ne marche pas si lourdement quand même, fais un tout petit peu attention. Je comprends très bien, tu es pressé, mais fais attention. Les anges sont là qui te regardent. Alors, réponse. La prudence fait faire ce qu'il faut pour atteindre le but. C'est-à-dire préside à la considération et au choix des moyens. Cependant, un acte de tempérance ou de force, par exemple, que nous faisons comme il faut, garde, grâce à la prudence, appartient principalement à l'une ou l'autre de ces deux vertus. De même ici, puisque la remontrance que comporte la correction fraternelle est destinée à guérir le mal d'un frère, ce qui est un acte de charité. Il est évident qu'elle est principalement un acte de charité, voulu et commandé par la charité. Et secondairement, un acte de la prudence, chargé d'en assurer la bonne exécution. C'est évident que la correction fraternelle relève aussi de la prudence. Du reste, on vous le dira, hein, au point de vue de l'exécution. Faites attention, il y a des gens qui corrigent leurs frères du matin jusqu'au soir. Ils sont nés comme des pères fouettards. Bon, alors ils corrigent tout le temps, ils ne peuvent pas supporter. Alors on dira, attention, faites une correction fraternelle par jour, c'est suffisant. Ou faites une correction fraternelle par semaine, c'est suffisant. Ou faites une correction fraternelle tous les mois, c'est suffisant. Venez, alors ça, la prudence intervient, vous voyez. La prudence est bonne conseillère pour savoir quand on doit faire cet acte de correction fraternelle. Parce qu'il ne s'agit pas de le faire n'importe comment et à n'importe quel moment. Vous savez bien, la correction fraternelle, par exemple, qu'on doit faire à son curé qui prêche très mal. Mais ne la faites pas immédiatement après le sermon. Faites-la en invitant le curé. Après lui avoir donné un bon repas, vous pouvez lui faire la correction fraternelle. Mais pas avant. Il faut faire attention. Parce qu'avant, il ne la recevra pas. Et donc, ce sera un manque de charité. Et donc, la prudence intervient. On ne doit pas blesser davantage quelqu'un qui est déjà blessé.